Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition de Géopolitique consacrée à la question migratoire, un sujet avec celui des réfugiés qui continue de faire la une des journaux tant il est entré dans les débats de politique intérieure de manière parfois totalement inattendue, comme en témoigne la proposition du candidat à l'investiture républicaine pour la présidentielle américaine. Donald Trump envisage d'interdire du territoire américain les musulmans, une réaction choc à la tuerie de San Bernardino en Californie, propos condamnés aussi bien aux États-Unis que dans le reste du monde. Changement de pied en Europe, rapprochement entre Berlin et Paris pour demander à Bruxelles une réduction des flux de migrants, une réponse à l'inquiétude des populations françaises et allemandes. Réfugiés, migrants en Europe était le thème d'une journée d'études organisée par l'Université de la Sorbonne à Paris cette semaine. L'occasion de regards croisés avec nos invités. Par téléphone, Sylvie Guillaume, vice-présidente du Parlement européen, spécialiste des questions d'immigration et de l'harmonisation européenne du droit d'asile. Bonjour.
Bonjour.
Serge Slama, maître de conférence en droit public à l'Université Paris-Ouest Nanterre, spécialiste de la question du droit des étrangers. Bonjour.
Bonjour.
Pierre Micheletti, ancien président de Médecins du Monde, vice-président d'Action contre la faim et professeur associé à l'Institut d'études politiques de Grenoble, spécialiste des questions humanitaires. Bonjour.
Bonjour.
Et Thomas-Marie Bémond, maître de conférence en sciences politiques à l'Université Paris 13 Sorbonne Cité, secrétaire général d'Action contre la faim. Bonjour.
Bonjour.
800 000, 1 200 000 migrants sont entrés dans l'Union européenne entre janvier et octobre 2015. Les chiffres sont évidemment incertains. Malgré les appels de la Commission européenne ou du Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés à ne pas faire de redoutable amalgame, les gouvernements européens referment leurs portes un à un dans l'incapacité de mettre en place un système de solidarité efficient. Sur la route des Balkans, un certain nombre de pays filtrent les migrants, la Slovénie, la Croatie, la Serbie, la Macédoine. Les Nations Unies ont dénoncé ces pratiques, rappelant que cette sélection viole le droit de toute personne à demander l'asile, indépendamment de sa nationalité, et à obtenir que son cas individuel soit entendu. Sylvie Guillaume, vous êtes vice-présidente du Parlement européen. Quel est le rôle du Parlement dans le domaine migratoire? C'est un pouvoir de codécision. Comment voyez-vous la façon dont l'Europe aujourd'hui répond au défi qui est le sien?
Et vous l'avez dit, surtout depuis que le Parlement européen a acquis le pouvoir de codécision après le traité de Lisbonne, on a un Parlement qui est actif sur ces questions depuis assez longtemps, des questions migratoires, qui est souvent en confrontation d'ailleurs avec le Conseil et la Commission, et ceci depuis longtemps, puisque ce pouvoir de codécision n'est pas toujours très bien perçu par les autres institutions. Et je crois que ce que nous avons essayé de faire depuis longtemps, c'est essayer d'avoir un regard le plus coordonné, le plus large possible sur les politiques migratoires, en combattant, ou en tout cas en nous opposant à ces accolements de différentes politiques qui finalement n'ont pas suffisamment de coordination entre elles. On traite de certains sujets, la question de l'entrée, la question du travail, la question de certaines populations, mais sans jamais, enfin, nous semblait-il, avoir une vision à la fois générale depuis la question de la source des migrations, de comment on travaille à la question du développement, comment on fait pour lutter contre la pauvreté dans les pays qui peuvent être source de migration, jusqu'au moment où les personnes qui ont migré arrivent dans nos pays européens, et on sait que les questions d'intégration ne se posent pas très bien. Évidemment, en passant avec tout ce qui concerne les voies légales de migration, dont nous considérons majoritairement qu'il faudrait qu'il y en ait plus que maintenant. Donc on essaye d'avoir à la fois un pouvoir de tribune, de proposition, de regarder les choses de façon, comme on dit dans notre jargon européen, holistique, c'est-à-dire générale et coordonnée. Et puis on a eu la surprise, ou en tout cas, on a eu à prendre parti sur un certain nombre de propositions de la Commission qu'elle a faites, donc suite à différents mouvements de population et flux de population, que nous soutenons pour certaines de ces propositions et pas pour d'autres. Et on a eu à se pencher de façon assez claire, notamment sur le plan de relocalisation des personnes déplacées.
Alors, une réaction ici en studio sur ce que vient de dire Sylvie Guillaume. Et finalement, qu'est-ce que révèle de l'Europe aujourd'hui la réaction européenne à ce défi migratoire?
Le problème, c'est que l'Union européenne navigue à vue, c'est-à-dire elle réagit de crise en crise depuis plusieurs années sur la question des migrants. et des réfugiés. Elle avait l'occasion, il y a 3 ans maintenant, de réformer l'ensemble des textes européens, notamment le fameux règlement Dublin 3 et les différentes directives relatives à l'asile. Et à ce moment-là, il y a eu un manque d'anticipation sur ce qui allait se passer et ce qui était inéluctable. C'était très clair qu'avec la guerre en Syrie et les différentes guerres qui se passent sur le continent africain, il était évident qu'il y allait y avoir un afflux assez important de réfugiés en peu de temps. Mais l'Union européenne n'a absolument pas anticipé ce mouvement et a maintenu un règlement, notamment le règlement Dublin 3, qui repose sur un système inéquitable de répartition des migrants. Et une fois que ces réfugiés ou ces migrants sont arrivés aux portes de l'Union européenne, les chefs d'État ont été totalement dépassés et ils se sont repris à plusieurs reprises et ils n'ont même pas adopté la décision à majorité, à l'unanimité, mais à majorité qualifiée pour pouvoir faire ces deux plans de relocalisation, de réinstallation.
Sylvie Guillaume, une réaction à ce qu'évoque à l'instant Serge Slamat sur le manque d'anticipation de l'Europe sur cette question?
Je dirais pas vraiment ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont connues depuis longtemps. Les mouvements de population, les difficultés qui peuvent apparaître sont pas vraiment une surprise. Il y a eu un certain nombre de propositions, mais ils n'ont pas pu être négociées ou pas pu être accordées. Par exemple, sur le règlement Dublin 3, le Parlement a eu un projet de modification qui n'a pas été validé ni par le Conseil ni par la Commission. Donc, on est toujours dans une confrontation que j'évoquais tout à l'heure entre les différentes institutions qui, quelquefois, sont sur la même longueur d'onde. Ça nous arrive avec la Commission, mais pas toujours. Et donc, du coup, cette anticipation, on n'a pas pu la mettre en place réellement. Et j'ajoute, c'est tout à fait exact, c'est que, enfin moi je l'appelle autrement, c'est défaut d'anticipation. Il y a aussi en ce moment maintenant un peu un concours l'épine de la proposition sur la migration. Et on voit surgir telle ou telle idée. Alors, selon des configurations différentes, effectivement, quelquefois ça prend la forme d'un courrier entre deux ministres de l'Intérieur. Des fois, tel ou tel chef d'État ou de gouvernement prend telle ou telle position. La Commission sort une batterie de projets depuis ces derniers mois, dont certains sont de recyclage. On s'interroge un peu, effectivement, sur la manière dont on navigue à vue ou où on fait ce concours l'épine. J'ajoute, enfin, sur la question du règlement Dublin 3, qui est effectivement un nœud de problème. Parce que le règlement Dublin 3, il part du principe que tous les systèmes d'asile des 28 pays de l'Union sont équivalents. Ce qui est évidemment totalement faux. J'ajoute qu'avec la proposition de relocalisation telle qu'elle est formulée par la Commission et que le Parlement a soutenu de 40 000 en urgence, puis 120 000 autres personnes, donc ce système de relocalisation, il est de fait l'interruption du système du règlement Dublin 3. Donc je vois mal pourquoi maintenant on aurait de nouveau une proposition pour un règlement Dublin 4 qui viendrait modifier tel ou tel critère alors qu'on a mesuré que ce règlement n'est pas efficace pour la situation que nous connaissons.
Thomas-Marie Bémon, je me tourne vers vous. Manque de coordination au niveau des institutions et puis évidemment chacun des pays, ce qu'évoquait à l'instant Sylvie Guillaume, avec des règles différentes.
Alors effectivement, il y a déjà des règles différentes, mais moi ce qui me frappe, et Sylvie Guillaume disait, le rôle du Parlement aujourd'hui, c'est d'essayer de promouvoir de nouvelles voies légales pour l'immigration, mais il est temps, parce que finalement ces voies légales se révèlent extrêmement restreintes. On constate qu'il est extrêmement difficile pour un demandeur d'obtenir un visa dans les autorités consulaires des différents pays européens. On voit aussi qu'il y a une demande qui est faite à la Turquie de renforcer le contrôle aux frontières. On a le sentiment finalement que tout est fait justement pour que les migrants se retrouvent dans des formes de zones de non-droit. Et après on nous dit qu'on va s'engager pour lutter contre les passeurs. Mais finalement, ces voies légales étant extrêmement restreintes, dans le fond, les réfugiés n'ont d'autre choix que de se retrouver dans des formes d'irrégularité. Et donc, je pense qu'il est plus pertinent de parler de crise des droits des réfugiés que de crise des réfugiés. Et je pense que le nœud, il est là aujourd'hui. Donc, je me réjouis d'entendre Madame Guillaume dire que le Parlement européen, en tout cas, a une action pour essayer de trouver d'autres voies légales.
Je suis aussi d'accord sur le fait que la position du Parlement européen lors de la renégociation de ce qu'on avait appelé le paquet asile était beaucoup plus ambitieuse que ce qui a été adopté par les États membres. C'est incontestable et si la version Parlement européen est adoptée, il y aurait des améliorations sur Dublin. Mais attention, le plan de relocalisation, c'est effectivement un système de dérogation pendant 2 ans au règlement Dublin 3, aux critères du règlement Dublin 3, mais uniquement à l'égard de deux nationalités, concrètement les Syriens et les Érythréens. Tous les autres seront maintenus par le système de hotspot à Lesbos ou à Lampedusa, et une partie qui ne relèveront pas d'une protection internationale pourront faire l'objet d'une décision de retour. Et
le hotspot, juste pour nos auditeurs.
Hotspot, c'est justement la contrepartie de ces plans. C'est l'idée que les deux États membres, donc la Grèce et l'Italie, doivent ouvrir des points où on fait une sélection, un tri entre l'ensemble des migrants et des réfugiés qui arrivent, avec l'aide de Frontex, des agences nationales, etc., pour dire si c'est effectivement des Syriens ou des Érythréens, donc ils pourront bénéficier la relocalisation, enfin quand ça marchera réellement, parce que pour l'instant, c'est 160 personnes depuis octobre qui ont fait l'objet d'une relocalisation.
C'est-à-dire un chiffre dérisoire.
C'est un chiffre dérisoire puisque ça doit être 160 000 personnes sur deux ans. Donc soit ils font l'objet d'une relocalisation pour ces deux nationalités, d'autres pourront faire une demande d'asile sur place, mais la demande d'asile en Grèce, on voit très bien que ça pose d'énormes difficultés, notamment dans les conditions d'accueil et d'examen de l'asile. Et puis, ce qu'on appelle les migrants aujourd'hui, qu'on pourrait appeler des sans-papiers aussi ou des irréguliers, eux, ont vocation à faire l'objet d'une décision de retour vers leur pays d'origine ou vers le pays par lequel ils sont passés, notamment la Turquie.
Pierre Micheletti.
L'alternance des dispositifs qui ont prévalu pose des questions concrètes aux organisations humanitaires, en particulier quand on est passé du dispositif Mare Nostrum, dont l'inspiration était plutôt humanitaire, au dispositif Triton, dont l'inspiration était plutôt sécuritaire. Immédiatement, quand on a changé les zones d'intervention des intervenants européens, on a créé des conditions d'insécurité pour les migrants que les organisations humanitaires ont eu à prendre en considération et auxquelles elles ont essayé de répondre. Donc l'alternance des politiques européennes, ces fluctuations ont entraîné de nécessaires adaptations pour les organisations internationales.
Sylvie Guillaume, le Conseil européen du 15 décembre prochain doit présenter des propositions. Quels sont, pour bien comprendre le débat aujourd'hui, les priorités ?
C'est assez difficile de répondre à votre question parce que moi je ne suis pas membre du Conseil européen et comme je vous le disais tout à l'heure, j'observe cette accumulation et cette navigation sur plusieurs propositions. Ce que je comprends de l'idée de ce Conseil, c'est de continuer à travailler à la régulation des flux, mais en ayant une option qui est de retenir le plus loin possible, maintenant, ces flux de population. Et donc, je pense qu'il y aura une forme aussi de poursuite d'un certain nombre d'idées qui ont été développées dans le sommet entre l'Union européenne et la Turquie, qui vise à trouver un accord pour contenir des personnes qui ne sont pas encore arrivées sur le territoire européen. Il y a quand même plus de 2 200 000 personnes en Turquie, une énorme proportion aussi de gens qui sont au Liban et en Jordanie. Et si on faisait une simple proportion avec la population française, ça équivaudrait à 17 millions arrivant en France. Donc on a quand même une petite idée du flux de personnes arrivées sur place et auxquelles ces trois pays font face. Donc je pense que l'objectif du Conseil, c'est de continuer à contenir dans telle ou telle zone de nouveaux flux de population. Ça serait bien qu'ils essayent aussi de lutter contre les égoïsmes nationaux qui continuent de se mettre en place, qui prennent la forme de refus d'accueil des populations alors que l'accord de répartition a été obtenu, voire les décisions qui se prennent de façon totalement unilatérale par différents États, soit de construction de murs, de barrières ou je ne sais quoi, qui posent non seulement le problème de cette décision unilatérale, mais qui finalement crée un total manque de solidarité au sein de l'Union européenne et un refus de la politique réellement européenne qui devrait être mise en place. Donc c'est un problème à tiroir, avec des tiroirs extrêmement chargés.
Alors problème à tiroir, Sylvie Guillaume évoquait la notion d'égoïsme. La duplicité aujourd'hui est quand même une Europe où on voit deux choses se dessiner. Et finalement, la question est de savoir qu'est-ce qui prime sur l'autre. Inquiétude en Europe ou incapacité à régler cela, Thomas-Marie Bémont?
Déjà, à propos de l'inquiétude, d'ailleurs, Madame Guillaume a utilisé le terme de contenir. Il faut avoir à l'esprit que finalement, les réfugiés et de manière plus générale les migrants sont souvent perçus dans le débat public, y compris par les acteurs politiques, comme une menace, qui peut être à la fois une menace économique, une menace en termes d'intégration, j'ai entendu le terme d'intégration. Donc il y a déjà, si vous voulez, ce référentiel qui n'est pas neutre parce qu'il produit des effets. Et puis, on constate aussi, quand on évoque le terme d'égoïsme national, il y a aussi une montée du populisme en Europe, avec tout ce que ça charrie comme idées souvent très stéréotypées à l'égard des migrants. Mais de facto, cette montée des populismes produit un effet sur les politiques globales.
Sylvie Guillaume ?
Et sur les opinions publiques, on est quand même confronté à une manipulation à la fois des chiffres, des concepts, qui est extrêmement anxiogène pour les gens. Je trouve qu'il y a un défaut d'explication et une manipulation des concepts qui est extrêmement délétère. Donc, du coup, cette anxiété déjà qui est liée à la situation économique avec des gens qui sont en difficulté, si d'un seul coup, tel ou tel parti ou tel leader politique, il y en a beaucoup, agite cette question-là comme étant une menace supplémentaire, nous, on n'arrive plus à expliquer de façon sereine, tranquille, même si ce sont des sujets compliqués qu'il faut parfois simplifier. Moi, j'ai quand même aussi l'envie de dire qu'il faut complexifier des sujets qui sont quelquefois présentés de façon trop simpliste. Il y a un enjeu de pédagogie pour arriver à faire comprendre un certain nombre de choses. Pour l'instant, on est quand même plus dans un côté anxiogène.
Pierre Michelletti.
Oui, sur le caractère pédagogique, je crois qu'un des rôles des organisations humanitaires, à côté de l'aide directe apportée aux populations tout au long du parcours, j'y reviendrai certainement, c'est quand même de façon incessante de rappeler quelles sont les conditions qui prévalent dans les pays d'origine de ces personnes, qu'on appelle migrants, mais qu'il faudrait peut-être mieux appeler réfugiés au sens du droit international. Donc rappeler constamment la réalité de ce qui se passe en Syrie, au Yémen, dans la Corne de l'Afrique, etc., de telle sorte que le débat ne se résume pas à des débats de politique intérieure avec un soubassement, comme le rappelait Thomas Ribemont, de préoccupations de politique politicienne dans certains pays en phase électorale, et de rappeler que ces personnes relèvent du statut de réfugiés, que ce statut leur confère un certain nombre de protections qui sont cadrées dans des textes internationaux, et je pense en particulier aux conventions de Genève de 1951, et que donc on n'est pas dans du compassionnel laissé normalement à la libre appréciation de tel ou tel gouvernement, mais que ces personnes sont censées être protégées par des textes.
Alors, Sylvie Guillaume, je profite de votre présence dans cette première partie de l'émission, parce que malheureusement vous ne pourrez pas être là dans la deuxième partie. Vous évoquez la nécessité aujourd'hui que ce problème des migrations, des réfugiés, soit un problème qui sorte finalement du cadre européen pour peut-être appeler à une grande réunion internationale sur ces questions. Il y a urgence.
Oui, parce qu'on voit bien qu'on patine beaucoup sur beaucoup de sujets, qu'il y a des réunions à répétition qui finalement montrent plus de blocages que de réelles avancées. Il y a des confusions qui continuent d'exister entre certains débats, c'est le moins qu'on puisse dire, et Pierre Michelletti faisait allusion à l'instant, il y a une confusion dans certains débats de sécurité, de lutte contre le terrorisme et des questions de migration, donc du coup qui renforce aussi la confusion des choses, une montée des populismes. Mais je pense que quand on sait par exemple que l'année dernière, en 2014, il y a 60 millions de personnes qui sont déplacées dans le monde pour des raisons diverses et variées, on n'a pas le temps d'évoquer ici le futur des réfugiés climatiques, je ne sais pas comment on les appellera, mais ça viendra probablement un jour. Donc il y a quand même 60 millions de personnes qui se sont déplacées l'année dernière dans le monde. Il y en a, disons, entre 800 000 et 1 million d'eux qui viennent de le faire dans l'Union européenne. Donc on voit bien qu'on a besoin d'avoir un registre et une vision qui dépasse les frontières strictes de l'Union européenne, de son pourtour et de ses relations avec les pays tiers de son pourtour. Et puis, il faut quand même aussi évoquer très concrètement l'idée que l'une des sources de mouvements importants en ce moment est la situation en Syrie. Également, j'y ajoute la situation en Libye, qui est quand même là aussi particulièrement confuse. Donc il faut aussi que l'internationalisation de ce débat pose la question du règlement de la situation en Syrie.
Un commentaire pour terminer cette première partie, Serge Slama.
Je pense qu'il faut prendre la mesure de la crise migratoire actuelle, mais aussi la relativiser. Alors c'est vrai qu'il y a eu 800 000 franchissements irréguliers dans l'Union européenne cette année, sachant qu'une personne peut franchir plusieurs fois des frontières européennes, donc c'est pas forcément des personnes physiques. C'est vrai qu'au troisième trimestre 2015, on a 410 000 demandes d'asile dans l'Union européenne, ce qui a doublé par deux, donc on aura 800 000 dans l'année. Tout ça est vrai sur ce mouvement-là, mais relativisons, parce qu'on a déjà eu des crises migratoires au moment de la guerre en ex-Yougoslavie. Et puis après, il y a une contrepartie sécuritaire très importante dans les plans dont on parle.
On développera dans la deuxième partie de l'émission. Sylvie Guillaume, merci pour votre participation. Je rappelle que vous êtes vice-présidente du Parlement européen, spécialiste des questions d'immigration et de l'harmonisation européenne du droit d'asile. Géopolitique, nous retrouvons nos autres invités, Pierre Micheletti, Serge Slama, Thomas-Marie Bémont et Antoine Pécou qui va se joindre à nous. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur les réfugiés et les migrants en Europe. Nous accueillons Antoine Pécou, professeur de sociologie à l'Université de Paris 13. Son dernier livre est justement consacré à la dépolitisation de la migration et à la gouvernance globale, ouvrage paru en anglais. Antoine Pécou, bonjour.
Bonjour.
Et nous retrouvons Serge Slama, maître de conférence en droit public à l'Université Paris-Ouest Nanterre, spécialiste de la question du droit des étrangers. Thomas-Marie Bémont, maître de conférence en sciences politiques à l'Université Paris 13, Sorbonne Cité, secrétaire général d'Action contre la faim. Et Pierre Micheletti, vice-président d'Action contre la faim et professeur associé à l'Institut d'études politiques de Grenoble, spécialiste des questions humanitaires internationales. Pierre Micheletti, quel défi cette question migratoire et des réfugiés pose aujourd'hui aux organisations non gouvernementales?
Il soulève un certain nombre de questions opérationnelles, financières, politiques, mais la première des questions auxquelles sont confrontées les ONG internationales, c'est de savoir comment elles entendent se positionner à l'égard de l'accompagnement de ces personnes, sachant que beaucoup d'organisations travaillent déjà dans les pays d'origine, que ce soit en Syrie, que ce soit en Irak. Ensuite, l'accompagnement suivant concerne les pays limitrophes. Mmh. Ça me donne l'occasion de rappeler que la première des solidarités à l'égard des réfugiés, ce sont des solidarités de voisinage, ça a déjà été évoqué. Le Liban, 4 millions d'habitants, plus d'un million de réfugiés, c'est sans commune mesure avec les chiffres dont nous parlons concernant l'hospitalité européenne. Autre point de tension pour les personnes qui migrent, les zones de regroupement en Afrique du Nord, où les conditions de vie en Libye, au Maroc, en Algérie méritent des regards extérieurs, méritent une aide quotidienne sur l'alimentation, sur l'eau. Bien sûr, les risques spécifiques qu'encourent ces personnes durant la traversée, où là, toutes les organisations n'ont pas les moyens de se doter de navires capables de prêter main forte aux populations. Les hotspots, c'est-à-dire les lieux dans lesquels sont regroupées ces populations migrantes, réfugiées à l'arrivée sur le territoire européen, et pour certaines organisations qui sont hybrides, qui travaillent tantôt en France ou en Europe, comme dans les pays de départ, comme Médecins du Monde, comme la CIMAD, eh bien, la possibilité d'intervenir auprès des populations dans notre pays, Calais en étant un exemple emblématique.
Alors, les hotspots, il n'y en a pas encore beaucoup, deux, je crois, au total, pas encore fonctionnels et opérationnels. Je ne sais pas qui va répondre, Serge Slama.
Alors, c'est important de parler de hotspots parce qu'il y a vraiment une contrepartie sécuritaire à ce plan de localisation. Il faut avoir conscience que des clôtures ont été installées, notamment entre la Grèce et la Turquie. On en parle beaucoup en Hongrie, à Calais. La France a installé une clôture quasiment infranchissable. Les contrôles frontaliers sont extrêmement importants. Le directeur de Frontex a demandé 775 gardes frontières supplémentaires pour faire ces contrôles. Je ne vous parle pas de toutes les technologies qui sont développées pour empêcher le passage de réfugiés, parce que finalement, c'est des réfugiés qui essayent de traverser à ces endroits. Donc, c'est des personnes qui ont le droit de franchir illégalement ces frontières. Ils doivent arriver à Lesbos ou à Lampedusa et être regroupés dans ces hotspots qui permettent de les identifier, de prendre leurs empreintes. Et l'enjeu essentiel, c'est la prise d'empreintes, puisqu'une fois qu'ils sont dans le fichier Eurodac, ils ne pourront plus demander l'asile ailleurs qu'en Europe, et il n'y a que deux nationalités qui pourront bénéficier de la relocalisation, les Syriens et les Érythréens. Et donc on voit très bien que derrière, l'accueil d'une partie de ces populations, il y a un dispositif sécuritaire qui vise à empêcher les autres d'entrer en Europe et de trouver accueil.
Antoine Pécou, je me tourne vers vous. Cet afflux de réfugiés et de migrants en Europe, c'est d'une certaine manière une crise sans précédent. Alors je sais que certains n'aiment pas qu'on évoque le terme de crise. Quel est votre point de vue à vous ?
Bien sûr, c'est une crise dans la mesure où c'est associé à une situation d'urgence, de souffrance, d'injustice extrêmement flagrante, une situation dans laquelle il faut trouver des remèdes. Cela dit, il faut quand même rappeler que le Calais, on parle souvent de Calais parce que bon, en France, c'est l'exemple le plus frappant. Calais, ça fait 20 ans que ça dure, sous différentes formes, avec différentes nationalités. Donc, d'une certaine manière, ce n'est plus une crise, ça devient, c'est un petit peu cynique, mais ça devient une manière de gérer les indésirables, de gérer ces gens qu'on ne veut pas. Et donc, en conséquence, des situations comme Calais, qui à première vue semblent être des situations de crise extrême, surtout dans un pays européen comme la France, qui a quand même les moyens de traiter humainement ces gens-là, ces situations de crise deviennent de facto des situations structurelles, des manières de gérer les migrants. Et malheureusement, on ne peut pas, disons, ne pas penser que c'est presque fait volontairement, de telle sorte que les migrants potentiels, les réfugiés potentiels, ceux qui considèrent la possibilité d'aller en France ou en Angleterre, aient en tête ce genre d'image, ce genre de situation, ce genre de conditions de vie. Et les gouvernements ont peut-être l'idée que si on ne fait rien pour remédier à cela, on va peut-être aussi décourager des gens. Donc, d'une certaine manière, c'est une gestion par le désastre, une gestion de l'immigration par la catastrophe, par la crise, par une situation de très grande précarité qui s'est mise en place. Et là, pour le coup, c'est pas nouveau, même si on en parle beaucoup aujourd'hui, parce que le système est évidemment particulièrement clair dans une situation comme celle de la Syrie. Mais malheureusement, c'est structurel.
Alors, Pierre Micheletti, je me tourne vers vous, gestion par le désastre. C'est vrai que les ONG en France, Antoine Pécou évoquait le cas de Calais, les défis pour des ONG de fonctionner en France et de prendre position avec une confrontation évidente d'une part aux politiques et puis questions financières.
Oui, donc avec une nouvelle donne aujourd'hui qui est aussi le ressenti d'une partie des populations françaises à l'égard de ces réfugiés, tout cela sur fond de débats politiques de période préélectorale. Donc les ONG ont à répondre à des besoins de base des populations qui sont d'abord l'hébergement, l'eau, la nourriture, de leur offrir la possibilité d'être soignés parce que les voyages sont très traumatisants. Et l'autre défi, il est sur l'interpellation politique, de pouvoir rendre compte de la situation de ces personnes et encore et toujours de rappeler aux autorités nationales, enfin françaises en l'occurrence, que ces personnes relèvent de droits qui ne doivent pas être subsidiaires et laissés à la compassion de l'opinion publique brusquement parce qu'on aurait l'image d'un petit enfant mort sur une plage. Les mécanismes qui doivent être activés ne relèvent pas du compassionnel et de la charité, ils relèvent du droit international.
Thomas Ribon.
Moi, je pense effectivement, comme Pierre Micheletti, au-delà des aspects opérationnels pour les ONG, qu'effectivement, il y a un gros travail à fournir. C'est engagé, mais il faut poursuivre le travail de plaidoyer auprès des acteurs politico-administratifs, donc vers le tissu institutionnel. Mais je crois aussi que les ONG ont un rôle à jouer à l'égard des opinions publiques, et notamment dans la divulgation d'une éthique de l'hospitalité, c'est-à-dire d'essayer de reposer la question de l'altérité, du rapport à l'autre, pour qu'enfin une partie de nos concitoyens, eh bien, comme le disait Paul Ricoeur, s'envisage soi-même comme un autre. C'est-à-dire que il y a un devoir, si vous voulez, juridique, mais il y a aussi un devoir moral. Et donc la question de la morale, elle est très présente dans ce débat. Et il me semble que là, les ONG ont un rôle à jouer.
Antoine Pécou, vous souhaitez réagir à ce que vient de dire Thomas Ribémont. Peut-être il est intéressant aussi d'évoquer l'évolution dans la réflexion par rapport à la question migratoire. En tout cas, avant la fin de la guerre froide, on accueillait facilement les migrants en leur disant « mais on vous comprend bien, venez donc chez nous ». Tout cela a évolué parce que le contexte général a évolué aussi, Antoine Pécou.
Oui, absolument. Oui, je pense que Thomas Ribémont en parlait d'un devoir d'hospitalité. Je dirais de façon plus générale, au-delà de la morale, il y a tout un modèle politique à inventer. Enfin, quelle politique migratoire dans un monde quand même fortement mondialisé aujourd'hui. Il faut quand même rappeler que migrer aujourd'hui est plus facile qu'avant. Enfin, paradoxalement, on construit des murs, on construit des barbelés, on prend des empreintes digitales, on fait preuve d'une extrême ingéniosité pour freiner ou contrôler les gens. Mais en même temps, migrer n'a jamais été aussi facile. En grande partie aussi parce que, qu'on le veuille ou non, beaucoup d'États se sont démocratisés. Et un État démocratique, c'est un État qui laisse les gens partir. Et ça, évidemment, à l'époque de la guerre froide, c'était pas possible. Dans les pays communistes empêchaient leurs citoyens de quitter leur pays. Et donc, évidemment, le travail pour les pays de destination, les pays d'Europe de l'Ouest, on était évidemment grandement facilité, puisqu'ils n'avaient qu'à, disons, accueillir le petit nombre de gens qui parvenaient malgré tout à quitter leur pays. La donne a complètement changé. Dans toutes les régions du monde, quitter son pays est devenu assez facile, assez aisé. Et donc, en conséquence, tout le fardeau, pourrait-on dire, du contrôle des migrations tombe maintenant sur les épaules des pays de destination. Et donc, il y a un nouveau modèle migratoire, une politique migratoire à inventer. Les hotspots dont on parlait à l'instant, de façon plus générale, c'est ça, c'est une tentative probablement maladroite, probablement vouée à l'échec, mais néanmoins une tentative de ordonner ce nouveau monde l'immigration, avec l'idée qu'on pourrait filtrer en cours de route dans les pays de transit, avant que les migrants n'arrivent en Europe, filtrer ceux qui méritent le droit d'asile et ceux qui ne le méritent pas, et ainsi de suite. On ne fait que commencer à réaliser que c'est pas possible. Certes, on parle beaucoup d'espace Schengen, de frontières extérieures, mais l'Europe, avec les îles grecques, avec les îles en Italie, avec la proximité avec des situations de graves conflits comme la Libye ou la Syrie, ne peut pas prétendre contrôler entièrement ses frontières. Je pense que c'est illusoire et je pense que beaucoup de régions du monde l'illustrent également. Les États-Unis ne peuvent pas prétendre contrôler leurs frontières avec le Mexique. C'est simplement pratiquement impossible, sauf à tomber dans un état ultra-policier que personne ne souhaite, qui serait dommageable, pas seulement pour les migrants, mais pour tout le monde.
Un commentaire en studio par rapport à ce que vient de dire Antoine Pécou, Serge Slama.
Malheureusement, on ne se dirige pas du tout vers les solutions proposées par Antoine, qui reposeraient sur une idée de laisser circuler les gens. On repose au contraire sur des outils de plus en plus répressifs. Par exemple, il y a une opération méditerranée actuellement qui s'appelle SOFIA ou NAFOR MED, qui consiste à repérer... Alors, officiellement, c'est les passeurs, mais comment voulez-vous distinguer les passeurs parmi les migrants pour les identifier avec une volonté à terme de faire une opération militaire si les Nations Unies l'autorisaient. De la même façon, une des choses qui ont été adoptées très récemment par le Parlement européen, qui a été discutée au Parlement, c'est la liste des pays d'origine sûrs. Et donc, on va avoir une liste où un certain nombre de personnes seraient présumées ne pouvant pas bénéficier d'une protection internationale, principalement les gens des Balkans et les Kosovars. Donc tout ça, c'est des solutions qui, en fait, érigent des barrières sur le parcours des réfugiés qui ont des besoins de protection et les maintient à l'extérieur de l'Union européenne. Une volonté de mise à distance du migrant et du réfugié, que les Turcs s'en occupent, que les Libanais s'en occupent, mais pas les Européens.
Vous écoutez RFI.
Géopolitique. Alors justement, à propos de la Turquie, qu'est-ce que vous pensez de l'accord qui a été trouvé entre l'Union européenne et la Turquie, qui consiste globalement en un chèque de 3 milliards de dollars ou 3 milliards d'euros à la Turquie, chargé donc de contrôler les départs de migrants. Thomas-Marie Bémont, vous souhaitez réagir ?
Écoutez, je pense que effectivement c'est une logique assez classique d'échange politique, hein, puisque cet accord vise aussi à réenclencher le processus d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. En toute honnêteté, je suis assez sceptique et je pense que c'est plus là de l'ordre de l'affichage qu'autre chose. Maintenant, il est clair que ça correspond à une logique où on demande à la Turquie de garder les migrants en dehors de l'Union européenne. Donc la logique qu'a décrite Antoine me semble assez juste de ce point de vue-là.
Il faut tout de même voir ce que l'Union européenne voulait faire. Finalement, l'accord, c'est essentiellement échange de monnaie. Et en échange, il faut un certain nombre de contrôles pour retenir les réfugiés. Mais l'Union européenne voulait que des hotspots ou des centres de rassemblement soient créés en Turquie. Voulait aussi qu'il y ait des zones tampons similaires à ce qui se passe déjà en Jordanie ou Liban, où les réfugiés syriens se trouveraient, avec évidemment une restriction des droits. Pour l'instant, les Syriens, ils sont tout de même dans un régime assez libre en Turquie. Pas forcément dans des conditions économiques très satisfaisantes, mais en tout cas, ils ne font pas l'objet de traitements comparables à la Libye ou d'autres pays. Et la volonté de l'Union européenne, c'était de forcer la main aux Turcs pour qu'ils enferment, contrôlent et surtout empêchent de circuler ces réfugiés syriens.
Alors, pour prolonger et aller plus loin, Antoine Pécou, je me tourne vers vous. Est-ce qu'on peut poser la question, effectivement, aujourd'hui, de la cohésion européenne sur ces questions migratoires et de la cohésion européenne dans son ensemble, elle toute seule, et de la nécessité, on l'évoquait avec Sylvie Guillaume dans la première partie de l'émission, avec vous maintenant, évidemment, un constat qui est un déficit d'une gouvernance mondiale et une certaine urgence à sortir par le haut, finalement, de ces questions qui se posent.
Oui, je pense qu'effectivement, ce sont des problèmes globaux, puisque aujourd'hui, c'est la Syrie, il y a quelques années, c'était l'Afghanistan, plus loin dans le passé, c'était l'ex-Yougoslavie. Donc, les crises, il y en aura toujours. Il y en a toujours eu, et malheureusement, il est vraisemblable qu'il y en aura encore à l'avenir. Et donc, l'Europe va continuer à être exposée à de très fortes pressions migratoires, et ce, sur une très longue durée, très vraisemblablement. Donc, effectivement, on peut tenter, comme le disait Serge Lama, de tout faire pour les éloigner, de tout faire pour qu'ils n'arrivent pas jusqu'aux frontières de l'Europe, pour qu'ils ne puissent pas déposer de demande d'asile, etc. La question est double. D'une part, c'est la faisabilité d'une telle stratégie. Est-ce que c'est vraiment possible? Dans certains cas, on s'aperçoit quand même que non. Par exemple, comme disait aussi Serge Lama, les Syriens sont encore relativement libres aujourd'hui en Turquie. Et il est vraisemblable que certains continueront de venir, d'essayer de venir en Europe. Donc il y a la question de la faisabilité, de la pratique. Et ensuite, il y a la question du coût politique. On se rend bien compte, effectivement, que l'exacerbation de ce genre de stratégie menace, par exemple, toute l'édification européenne. À certains stades, on discute même de rétablir des frontières intérieures dans l'espace de Schengen, précisément pour lutter contre l'immigration. Donc un des grands acquis communautaires de l'Europe de ces 50 dernières années est menacé par ce genre de conflit. Donc le coût politique peut être extrêmement important, sans parler évidemment des innombrables violations des droits fondamentaux qui se produisent et qui sont largement la conséquence des efforts pour réguler ou maîtriser le flux. Donc, il y a deux questions, la question pratique et la question morale ou politique du coût qu'on est prêt à payer, pas seulement les migrants, mais nous tous, citoyens européens, pour, disons, rendre possible, ou en tout cas rendre l'illusion possible qu'on puisse contrôler ces flux.
Alors, l'éventualité de prolonger jusqu'à 2 ans le rétablissement présumé provisoire du contrôle aux frontières intérieures, si des déficiences sérieuses et persistantes sont constatées, les pays européens en discutent, c'est la fin de Schengen, Serge Slama?
C'est pas la fin de Schengen, puisque le rétablissement des contrôles frontaliers, c'est prévu par Schengen dans certaines circonstances. Très clairement, il y a des États qui en abusent. Que l'Allemagne ou l'Autriche, à un moment donné, rétablit les contrôles frontaliers, c'est pas quelque chose qui me choque. Même la France, dans le cadre de la COP21, il y a des justifications. En revanche, quand la Pologne ou d'autres pays qui voient passer quasiment aucun migrant rétablit les contrôles, ça a aucun sens. On voit très bien qu'il y a une fragilisation de l'édifice européen. C'est beaucoup plus large que ça, parce qu'il y a un manque de volonté politique. Il y a aussi une instrumentalisation qui est très claire, hein, sur les contrôles frontaliers. On pourrait parler aussi de l'état d'urgence. Actuellement, pour contrôler les migrants, on a parlé de Calais. Par exemple, la préfète du Pas-de-Calais a pris un arrêté interdisant la circulation sur la rocade qui permet aux migrants de partir de la Lande, du camp de la Lande, pour aller jusqu'au port ou jusqu'à Eurotunnel. Et là, c'est une instrumentalisation parce qu'évidemment, il n'y a aucun rapport entre l'état d'urgence et les migrants de Calais. Aucun. Mais on instrumentalise l'état d'urgence. Et il y a beaucoup de contrôles à l'égard des étrangers qui ont été faits pendant l'état d'urgence à l'égard des migrants. Et tout ça, c'est totalement anormal. C'est totalement hors sujet. Mais on voit qu'on agite ce chiffon rouge pour désigner un bouc émissaire, pour désigner d'où vient le mal, quoi.
État d'urgence qui a vocation à durer encore 2 mois. Thomas Rivemont.
Je trouve que cette idée de fermeture des frontières, c'est justement, et c'est ça qui m'inquiète, c'est le symbole de désunion de l'Europe. C'est ce que disait François Jemène, finalement. À quoi sert l'Union européenne si dès qu'il y a un problème, on ferme ses frontières plutôt que de tenter de régler la question en commun? Donc je rejoins Serge Slama quand il dit, mais finalement, le problème, il est plus large. Et effectivement, les questions qui sont posées avec la question de la fermeture des frontières, c'est clairement l'avenir de l'Union européenne. Est-ce que c'est pas la marque d'une Union européenne qui est en train de se désunir complètement? Et ça a de quoi inquiéter.
Pierre Micheletti.
Non, pas de commentaires supplémentaires, simplement redire à nouveau que, quels que soient les dispositifs juridiques, quelles que soient les tergiversations politiques, je crois que dans cette affaire, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que ces populations qui migrantes, réfugiées, sont des gens qui fuient parce qu'ils sont terrorisés. Et que donc, ils contourneront les dispositifs ou chercheront à les contourner. Il y a une dynamique de départ de ces personnes, il faut le rappeler en permanence, dicté par ce qu'ils vivent sur le terrain pour un certain nombre d'entre eux, enfin dans leur pays d'origine, je veux dire, et que ils chercheront des solutions alternatives, mais ils sont prêts à mourir pendant la traversée en Méditerranée. C'est donc qu'ils ont des craintes, parce qu'ils savent, on voit dans les médias européens ce qui se passe en Méditerranée, mais ils le savent très bien également dans les zones de regroupement d'Afrique du Nord ou dans les pays d'origine, et malgré tout, ils continuent à prendre le chemin de l'exil parce que, poussés par ce qu'ils vivent dans leur pays de départ.
Alors, Antoine Pécou, un commentaire très rapide de conclusion.
Je pense que ce que vient de dire Pierre Micheletti est très juste. Il est très très difficile de penser qu'on peut réguler les flux migratoires lorsque les gens sont prêts à mourir pour franchir une frontière. Je pense que là, on est face à un dilemme insurmontable. Et à un moment donné, les politiques devront comprendre que ces pratiques d'éloignement des étrangers buteront encore et toujours sur ce même désespoir, sur cette même volonté absolue de franchir la frontière coûte que coûte. Et tôt ou tard, il faudra effectivement songer à un changement de paradigme assez fondamental par rapport à le véritable objectif de base des politiques politique migratoire. Malheureusement, on n'en est pas encore là, mais peut-être qu'un des avantages paradoxaux d'une situation de crise, c'est qu'il met en évidence l'incapacité totale des États à réguler cela, malgré leurs prétentions à vouloir le faire, et plus cette incapacité est évidente, plus la recherche de nouveaux paradigmes sera urgente et légitime, en tout cas disons, aux yeux des chercheurs, de l'opinion publique, etc.
Merci Antoine Pécou. Je rappelle que vous êtes professeur de sociologie à l'Université de Paris 13 et votre dernier livre est justement consacré à la dépolitisation de la migration et à la gouvernance globale. Un ouvrage qui est paru en anglais, c'est La fin de géopolitique. Merci aussi à Serge Slamin, maître de conférences en droit public à l'Université Paris-Ouest Nanterre, spécialiste de la question du droit des étrangers. Pierre Micheletti, vice-président d'Action contre la faim et professeur associé à l'Institut d'études politiques de Grenoble, spécialiste des questions humanitaires internationales. Et Thomas Ribémont, maître de conférences en sciences politiques à l'Université Paris 13, Sorbonne Cité, secrétaire général d'Action contre la faim. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet de RFI, www.rfi.fr, également sur Facebook, Géopolitique, Le Débat. Émission signée Marie-France Chatin, Véronique Durand et Nathalie Laporte. À samedi prochain.